IDFM Radio Anguin.
Bonjour à tous, vous êtes sur IDFM Radio 98 FM, il est 18h et c'est l'émission donc Entre Chiens et Loups. Je suis Ishtar Mathieu-Séchez, je suis percussionniste de formation et aujourd'hui musicologue conférencière et je suis ravie de m'adresser à vous à nouveau pour partager un nouveau programme consacré aux fondamentaux de la musique et plus précisément un deuxième programme consacré aux tubes de la musique classique. On se retrouve donc les 1er et 4e mardi de chaque mois de 18h à 19h donc dans l'émission Entre Chiens et Loups. Dans ces émissions consacrées donc aux tubes de la musique, je m'attache donc à vous apporter un maximum d'informations autour des morceaux très connus que nous découvrons ensemble. Quel compositeur, quelle époque, quelle œuvre, quel titre d'œuvre, voilà le genre d'informations que je vous apporte et parfois quelques informations aussi supplémentaires. Et on va donc commencer le programme du jour. Et pour commencer donc le programme du jour, Modeste Moussorgski. Modeste Moussorgski est un compositeur du 19e siècle qui est mort bien trop jeune. C'était un compositeur de génie, mais malheureusement, il a gâché son génie. Il est mort malheureusement notamment du fait de l'alcool. Mais c'était donc un grand génie du 19e siècle russe. Parmi les œuvres qu'il a écrites, il y a son opéra qui s'appelle Boris Godounov, qui est une très très grande œuvre du genre lyrique. Et on lui doit aussi une œuvre qui s'appelle Les tableaux d'une exposition. C'est une œuvre qu'il a écrite en 1873-74 en hommage à son ami peintre Victor Hartmann, qui était un peintre russe, hein, malgré le nom qui ne l'indique pas vraiment. Et ce peintre est décédé à 39 ans en 1873. Suite à ça, une exposition a été organisée pour présenter ses œuvres à Saint-Pétersbourg et Moussorgski a visité l'exposition en question et il a été inspiré par ses tableaux. Il a écrit une œuvre donc en plusieurs parties, hein, sachant qu'il y a donc plusieurs tableaux dans cette œuvre. Il l'a écrit donc pour piano. Quelques années plus tard, donc pas loin d'une quarantaine d'années après, Maurice Ravel, donc le compositeur français célèbre notamment pour son Boléro, a fait ce qu'on appelle une orchestration des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski. Une orchestration, c'est, par exemple, dans le cas présent, prendre une œuvre pour piano et la transformer en une œuvre pour orchestre. Ravel n'est pas le seul ni le premier à avoir fait cela, mais aujourd'hui, c'est bien son œuvre, c'est bien sa version qui fait foi et qui est la plus connue et la plus enregistrée. C'est dans cette version orchestrée par Maurice Ravel que nous allons écouter un extrait de La Grande Porte de Kiev. En l'occurrence, ce tableau et ce morceau, c'est l'œuvre, c'est la partie qui termine les tableaux d'une exposition. Le tableau de Victor Hartmann, sachant qu'aujourd'hui il n'en reste que 6, hein, donc même pour les tableaux d'une exposition de Moussorgski, nous n'avons pas tout, donc il y a beaucoup d'entre eux pour lesquels il faut faire marcher notre imagination pour essayer d'imaginer un petit peu à quoi il ressemblait. Eh bien, La Grande Porte de Kiev était un dessin, un tableau qu'avait fait Victor Hartmann pour répondre à un concours qui avait été fait pour construire une grande porte à l'entrée de la ville de Kiev. C'était La Grande Porte de Kiev à l'instant sur IDFM Radio 98 FM, première radio du Val d'Oise. Et la Grande Porte de Kiev, on la doit à Modeste Moussorgski, compositeur russe, et là, plus spécifiquement, dans la version orchestrale, c'était donc celle de Maurice Ravel, compositeur français donc, qui a fait une orchestration de ses tableaux d'une exposition en 1922. Nous restons en Europe de l'Est, mais nous allons en République tchèque pour retrouver le compositeur Antonín Dvořák. Lors de la dernière émission, déjà consacrée à des tubes de la musique classique, nous avions écouté la Moldao, un extrait d'un poème symphonique de Bedřich Smetana, qui était déjà tchèque. Antonín Dvořák a écrit 9 symphonies et la plus connue d'entre elles est probablement sa 9e et dernière. Elle s'appelle la Symphonie du Nouveau Monde. Et cela n'est pas du tout dû au hasard, c'était quelque chose de très concret dans la vie du compositeur Antonín Dvořák, puisque le Nouveau Monde, eh bien, ça décrit les Amériques de façon générale, mais là, plus spécifiquement, ça décrit les États-Unis. Et c'est un pays où il a séjourné pendant plusieurs années et il a même été directeur au Conservatoire de New York. Donc il y a passé plusieurs années et il a même une autre œuvre, en l'occurrence un quatuor à cordes qui s'appelle le quatuor américain. Donc les États-Unis représentaient une partie de la vie donc d'Antonín Dvořák. Cette 9e symphonie donc est dernière, comme la 9e symphonie de Beethoven et la dernière du compositeur. Il y a plusieurs compositeurs dans ce cas-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller plus loin que 9 symphonies. C'est tout à fait un hasard du calendrier. Néanmoins, c'est assez amusant de remarquer que après Beethoven, qui a été le premier, qui a été un compositeur qui a vraiment marqué de son empreinte la musique classique et qui a fait évoluer le genre de la symphonie en particulier, mais pas que ça, loin de là, il a vraiment marqué de son empreinte le genre à tel point, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, qu'on parle de la malédiction de la 9e, et c'est un fait, on peut constater qu'après lui, beaucoup de compositeurs n'ont pas pu, pour différentes raisons, composer plus de 9 symphonies, et Antonín Dvořák fait partie de ces compositeurs. Le thème du premier mouvement, c'est là aujourd'hui on va écouter un extrait du dernier, donc du 4e et dernier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde d'Antonín Dvořák, mais je voulais vous préciser que le thème du premier mouvement, qui est un thème très célèbre, a servi à Serge Gainsbourg pour écrire sa chanson Bibi Initials, donc Bibi comme Brigitte Bardot. Serge Gainsbourg a souvent utilisé des mélodies classiques pour les intégrer à ses chansons. Le 4e mouvement, lui, est célèbre aussi. Il commence par un accélérando. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose qui accélère, quelque chose qui approche. Et voici donc un extrait de ce final, de cette 9e symphonie d'Antonín Dvořák. Entre chien et loup sur IDFM Radio 98FM, vous venez d'entendre un extrait du 4e et dernier mouvement de la symphonie numéro 9, dite du Nouveau Monde, d'Antonín Dvořák. Je parlais donc il y a quelques instants de Serge Gainsbourg et des musiques classiques qu'il a utilisées et intégrées dans ses chansons. C'est le cas aussi du 3e mouvement de la 3e symphonie de Johannes Brahms, compositeur allemand du 19e siècle. Il était né en 1833 et il est décédé en 1897. Brahms, lui, n'a écrit que 4 symphonies et il a attendu d'avoir environ 40 ans pour composer sa toute première symphonie. Sa 3e symphonie, donc, et plus précisément son troisième mouvement, présente une mélodie très célèbre, puisqu'elle a été utilisée dans la chanson Babylon Baby Alone, chantée par Jane Birkin, et chanson donc écrite par Serge Gainsbourg. C'est une chanson, une mélodie calme, qu'on reconnaît bien dans sa version originale quand on connaît la chanson de Serge Gainsbourg, et je vous propose donc bien sûr d'écouter la version originale ici, donc avant-dernier mouvement de l'avant-dernière symphonie de Johannes Brahms. De Brahms et l'Allemagne, nous traversons donc l'Atlantique et nous allons aux États-Unis. États-Unis, c'est un pays que j'ai déjà mentionné il y a quelques instants grâce à Antonín Dvořák, donc qui a vécu quelques années, qui a travaillé au Conservatoire de New York et qui a écrit donc deux œuvres qui sont marquantes par rapport à cette période, donc la Symphonie du Nouveau Monde et le Quatuor américain. C'est pour aborder un compositeur américain du XXe siècle que je vous propose donc d'aller aux États-Unis. Et ce compositeur s'appelle Samuel Barber. Il est très célèbre pour son fameux adagio, à tel point qu'on parle de l'adagio de Samuel Barber. C'est une œuvre qui a été utilisée dès 1945, et c'est toujours le cas aujourd'hui aux États-Unis, dans des circonstances dramatique. Et la première fois que ça a été utilisé, donc en 1945, c'était à l'occasion des funérailles du président Franklin Roosevelt. Et depuis, donc, dans chaque circonstance dramatique, cet adagio donc est utilisé. Mais avant d'écouter un extrait de cette œuvre que vous connaissez tous, j'en suis sûre, je voulais faire un petit historique donc de ce morceau bien célèbre. L'adagio, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Adagio, ça veut dire que c'est un morceau qui est lent, puisque en fait, là, c'est le nom de l'œuvre, mais à l'origine, adagio est un mot pour désigner un tempo, un rythme lent pour des morceaux. C'est un terme italien et c'est un terme qu'on utilise, qu'on utilise dans le langage musical, y compris en France. Donc, c'est un morceau lent. Mais au-delà de ça, il faut savoir que, à l'origine, c'est le mouvement lent d'un de ces quatuors à cordes. Et oui, ça n'a pas été écrit à l'origine pour la version que l'on connaît le plus, c'est-à-dire pour un orchestre à cordes. À l'origine, cet adagio, qui est le mouvement lent d'un de ces quatuors à cordes, a pour instrument un violon 1, un violon 2, donc deux violons en tout, un alto et un violoncelle. C'est l'instrumentation classique d'un quatuor à cordes. Et c'est lui qui, par la suite, va faire une orchestration, même si c'est que pour des cordes, on utilise quand même ce terme, une orchestration de ce mouvement. Et c'est comme ça que naît donc le fameux adagio de Samuel Barber, donc de Samuel Barber, pardon, pour cordes, avec ici donc plusieurs premier violon, plusieurs second violon, plusieurs altos, plusieurs violoncelles, et il va faire un petit ajout par rapport à sa version originale. En l'occurrence, dans sa version pour orchestre à cordes, il va ajouter des contrebasses, donc il va être l'instrument le plus grave, sachant que dans le quatuor à cordes, c'est le violoncelle qui est l'instrument le plus grave. Donc dans sa version orchestrale, pour cordes, il y a 5 parties différentes. Les violons 1, les violons 2, les altos, les violoncelles et les contrebasses. Et c'est dans cette version que je vous propose d'écouter le morceau.
Thank you.
C'était l'adagio de Samuel Barber à l'instant sur IDFM Radio et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je suis Ishtar Mathieu-Séchez, musicologue conférencière et aujourd'hui nous abordons pour la deuxième fois, pour une deuxième émission, les tubes de la musique classique. Et que diriez-vous, avant de passer au compositeur et à l'œuvre suivante, d'écouter la version originale de cet adagio de Samuel Barber, en l'occurrence en version pour quatuor à cordes. Nous venons d'écouter ensemble sur IDFM Radio dans l'émission Entre chien et loup la version originale, la version quatuor à cordes du fameux adagio de Samuel Barber, compositeur américain du XXe siècle. Donc nous n'avions ici que deux violons, un alto et un violoncelle. Nous allons aller en Italie, mais nous allons rester avec un morceau qui s'appelle Adagio. En l'occurrence, ici, c'est l'Adagio d'Albinoni. Et là aussi, il y a des petites histoires à raconter. En l'occurrence, Albinoni, c'est un compositeur qui a vraiment existé, un compositeur de l'époque baroque, hein, donc c'est la période qui va de 1600 environ à environ 1750, donc une période très longue, et c'est un compositeur donc qui est aujourd'hui méconnu, si ce n'est grâce à cet Adagio qui est malheureusement en fait pas de lui. Et oui, le titre c'est vraiment Adagio d'Albinoni, mais là c'est vraiment le nom de l'œuvre, le compositeur, ce n'est pas Albinoni. Et non, le compositeur c'est il s'appelait Remo Giazotto, donc c'est un compositeur du XXe siècle, figurez-vous, et il a écrit cette œuvre en 1945. Donc Remo Giazotto a écrit une œuvre du genre qu'on appelle néo-classique. Ça veut dire que c'est une œuvre donc du XXe siècle, donc de l'époque moderne, mais qui s'inspire d'œuvres passées, notamment là, en l'occurrence, de la période baroque, puisqu'il reprend des idées thématiques, il reprend des mélodies qui avaient été écrites par Tommaso Albinoni. Tommaso était le prénom de ce compositeur. Vous êtes toujours dans l'émission Entre chien et loup sur IDFM Radio jusqu'à 19h et nous venons d'entendre à l'instant l'Adagio d'Albinoni écrit en 1945 par le compositeur Remo Giazotto, donc une œuvre de style néoclassique. Venons dans notre pays, après avoir fait un tour dans divers pays à l'étranger, et retrouvons le compositeur Georges Bizet. C'est un compositeur français de l'époque romantique. Il est mort en 1875, l'année de la création de son opéra ô combien célèbre, Carmen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un extrait de Carmen que je souhaite vous proposer, mais un autre extrait qui est extrêmement célèbre lui aussi. En l'occurrence, c'est un extrait d'une œuvre qui s'appelle L'Arlésienne. L'arlésienne fait partie du genre que l'on appelle la musique de scène. Lors de la dernière émission, nous avions écouté ensemble la marche nuptiale de Mendelssohn, qui était un extrait de la musique de scène que le compositeur, au début du 19e siècle, avait écrite pour la pièce de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Là, l'arlésienne, Bizet, l'a écrite pour la pièce d'Alphonse Daudet, du même nom, donc l'arlésienne. Donc, la musique de scène est vraiment un genre musical à part entière. Cette mélodie très célèbre que vous allez reconnaître, et puis c'est celle de la chanson de Bon Matin, j'ai rencontré le train, eh bien, elle n'est pas de Bizet. Et oui, c'est une musique qui existait déjà auparavant et elle est attribuée, donc elle aurait été écrite par Jean-Baptiste Lully et le morceau s'appelle La Marche de Turenne. Donc c'est un morceau qui était préexistant. On écoute donc cette arlésienne. C'était l'Arlésienne dans l'émission Entre Chien et Loup sur IDFM 98 FM. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et l'Arlésienne est signée par le compositeur Georges Bizet, compositeur français du 19e siècle. De Georg Friedrich Händel, dans la dernière émission, nous avons écouté le chœur Alléluia de son Messie, qui appartient au genre de l'oratorio. Aujourd'hui, je vous propose un autre morceau de ce compositeur, donc compositeur allemand, enfin né en Allemagne, ayant fait carrière en Angleterre et étant devenu sujet britannique. Georg Friedrich Händel appartient à l'époque baroque, tout comme Bach ou Lully, sachant qu'il était beaucoup plus jeune que Lully et qu'il avait exactement le même âge que Jean-Sébastien Bach. À l'époque baroque, beaucoup de compositeurs ont écrit des œuvres qui s'appellent des suites. En l'occurrence, ce sont des suites de danse. Au sein même d'une œuvre qui s'appelle suite, nous avons plusieurs morceaux différents et chacun des morceaux va être une danse. On a à la fois des danses rapides et des danses lentes. Bach, par exemple, a écrit des suites pour violoncelle qui sont devenues extrêmement célèbres. Elles sont au nombre de 6 et chacun des mouvements est une danse différente. Händel a aussi écrit des suites. En l'occurrence, lui, il en a notamment écrit pour clavecin, qui était un des claviers qui existait à l'époque. Et dans sa sarabande, dans une de ses suites, il y a une sarabande, sachant que la sarabande, c'est une danse lente que l'on retrouve très souvent dans les suites de l'époque baroque. Et cette sarabande a été utilisée notamment dans le film Barry Lyndon de Kubrick, dans une version orchestrale, et c'est cette version-là que je vais vous proposer d'écouter, mais il faut savoir qu'à l'origine, c'est une œuvre pour un seul instrument, en l'occurrence, le clavecin. Händel à l'instant sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chien et Loup, en l'occurrence c'était une sarabande tirée d'une de ses suites pour clavecin. Et c'est sa sarabande la plus célèbre, utilisée donc en version orchestrale dans le film de Kubrick, Barry Lyndon. Retournons en Europe de l'Est et nous allons écouter un morceau maintenant qui est extrêmement dynamique, extrêmement rythmé. J'ai nommé la danse du sabre du compositeur Aram Khachaturian. À l'époque, le jeune Khachaturian ou l'adulte Khachaturian faisait partie de l'Empire russe, mais aujourd'hui, géographiquement, ça correspond à ce qu'est l'Arménie. Donc Aram Khachaturian, compositeur extrêmement talentueux, il a écrit notamment un ballet qui s'appelle Spartacus et il a écrit un deuxième ballet au sein duquel nous retrouvons la danse du sabre. Malheureusement, ce deuxième ballet qui s'appelle Gayané n'est pas du tout célèbre. Par contre, la danse du sabre que l'on retrouve au sein de ce ballet est devenue un tube absolument majeur de la musique classique et je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est un morceau extrêmement dynamique et très percussif que nous venons d'entendre sur l'antenne d'IDFM Radio dans l'émission Entre Chien et Loup et en l'occurrence c'était la danse du sabre d'Aram Khachaturian, cette danse du sabre que normalement on doit retrouver au sein du ballet qui s'appelle Gayané. Malheureusement, ce ballet n'est jamais ou quasiment jamais interprété et on joue cette œuvre en version concert sans danseur. Beaucoup plus calme, le deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Mozart. Mozart a écrit donc à la toute fin de sa vie, donc en 1791 en l'occurrence, qui est l'année de sa mort, un concerto pour clarinette et c'est le seul et unique concerto qu'il a écrit pour cet instrument. Pour piano, il en a écrit beaucoup plus. Pour violon, il en a écrit plusieurs également. Il en a écrit donc que un pour la clarinette. Mais il faut savoir que la clarinette était encore un instrument relativement récent à l'époque de Mozart. Le deuxième mouvement est absolument magnifique et on entend le son suave de la clarinette dès le début avec l'orchestre qui accompagne de façon très délicate donc le soliste. Pour rappel, le concerto est un genre à trois mouvements avec un mouvement rapide, un mouvement lent et un mouvement rapide et il y a un instrument soliste qui va être mis en avant ici, la clarinette. Mais à la fin de l'émission, nous entendrons un extrait d'un concerto pour violon de Vivaldi. Ça appartient donc exactement au même genre, peu importe l'instrument qui est mis en avant avec Mozart ici. Donc nous avons une œuvre magnifique avec la clarinette de chez Mozart. Ce mouvement lent, ce deuxième mouvement du seul et unique concerto pour clarinette de Mozart est utilisé au cinéma, notamment dans le film Out of Africa. Prokofiev, maintenant, donc nous retournons en Russie après Modeste Moussorgski qui a ouvert le programme du jour et nous allons découvrir ensemble la danse des chevaliers. Prokofiev a écrit des œuvres dans plusieurs genres musicaux et il a écrit notamment plusieurs ballets et probablement le plus célèbre d'entre eux est celui qui s'appelle Roméo et Juliette. D'après l'œuvre de Shakespeare, bien sûr, il y a eu plusieurs genres d'œuvres qui ont été écrites. Il y a eu des opéras, notamment, et donc, via Prokofiev, un ballet. Au sein de ce ballet, il y a un passage qui s'appelle la danse des chevaliers et qui est une danse qui va être très lourde, très marquée, avec ce rythme très, très posé que l'on entend donc dès le début. Mendelssohn, donc Shakespeare a inspiré le compositeur Serge Prokofiev pour ce ballet, donc Roméo et Juliette, et c'était spécifiquement donc la danse des chevaliers que nous venons d'écouter. Continuons notre voyage. Comme dans la première émission, nous voyons plusieurs genres différents, plusieurs époques et plusieurs pays différents. Nous allons maintenant donc aller en Italie et retrouver le compositeur Giacomo Puccini, compositeur mort en 1924. Et son dernier opéra, d'ailleurs, donc il ne l'a pas terminé, s'appelle Turandot, T-U-R-A-N-D-O-T. Cet opéra a été terminé par l'un de ses élèves qui s'appelait Franco Alfano il a été créé en 1926. De ce fait, alors que ça va faire bientôt 100 ans, ce sera l'année prochaine que le compositeur est décédé, du fait que Turandot a été terminé par un de ses élèves mort bien après, c'est une œuvre qui reste encore sous la législation du droit d'auteur et qui n'est pas dans le domaine public, contrairement donc à toutes les autres œuvres de Puccini. Au sein de cet opéra, nous avons un magnifique air de ténor, c'est souvent le cas qu'on a dans les opéras, c'est souvent les ténors, heureusement que ce n'est pas exclusivement ça, mais c'est vrai qu'il y a très très souvent dans les opéras des magnifiques airs de ténor. Il faut dire que les ténors sont souvent les voix qui font les personnages principaux, les princes ou les jeunes premiers. Et ils ont souvent donc des beaux airs et chez Puccini, et plus particulièrement là dans Turandot, nous avons un air qui s'appelle Nessun Dorma. L'histoire de Turandot se passe en Chine. Et là, donc, c'est un magnifique air que je vous laisse apprécier.
Il non è io nessun saprà.
Nessun Dorma de Giacomo Puccini à l'antenne d'IDFM. De Puccini, nous pouvons aussi citer un opéra qui s'appelle Tosca ou encore un autre qui s'appelle La Bohème ou encore Madame Butterfly. Puccini s'est vraiment investi énormément dans le genre de l'opéra. C'est d'ailleurs quasiment exclusivement pour ça qu'il est connu et reconnu. Nous traversions les Alpes et nous revenons en France pour retrouver le compositeur Camille Saint-Saëns qui était né en 1835 et qui est décédé en 1921. Donc cela fait 102 ans, nous avons célébré le centenaire de sa mort il y a 2 ans. Camille Saint-Saëns a été le premier à écrire de la musique de film telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et oui, Camille Saint-Saëns est le père de la musique de film, puisque c'est lui qui a écrit donc la musique du film L'assassinat du duc de Guise d'André Calmette, sorti en 1908 et qui dure une vingtaine de minutes. L'œuvre la plus célèbre de Camille Saint-Saëns est probablement Le Carnaval des animaux. Dans cette œuvre, il a inclus beaucoup d'humour, puisque parmi les différents animaux qu'il y a inclus, il a mis les pianistes. Et oui, il y a un morceau qui s'appelle Les pianistes, et en fait, là, les pianistes sont un petit peu moqués, et c'était l'autodérision, puisqu'ils jouaient du piano lui-même. Et on les entend en train de faire leur gamme, et on entend un orchestre qui ponctue les gammes de ce piano. Au cours de cette œuvre, nous avons le cygne, qui est un magnifique duo violoncelle-piano. Nous avons l'éléphant, qui est un très très beau duo contrebasse-piano. Ce sont de très beaux exemples pour entendre de façon très marquée la sonorité de ces différents instruments. Et il y a aussi donc les poissons, qui est intitulé plus précisément l'aquarium. Et cette œuvre, et cet extrait, l'aquarium, c'est la musique qui sert de générique, d'indicatif, au festival de cinéma de Cannes qui a lieu tous les ans au mois de mai. L'aquarium, un extrait de l'œuvre Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, à l'instant sur IDFM Radio 98FM, IDFM première radio du Val d'Oise, et nous sommes ensemble jusqu'à 19h dans l'émission Entre chiens et loups. Nous traversions à nouveau l'Atlantique pour retourner aux États-Unis après avoir évoqué Antonin Dvorak qui a vécu plusieurs années, après avoir évoqué Samuel Barber. Maintenant, donc, nous abordons le compositeur Scott Joplin qui a été un des maîtres du genre qui s'appelle le ragtime. Le ragtime est un genre musical qui a existé entre la toute fin du 19e et les premières années du 20e siècle. C'est autour de la fin de la Première Guerre mondiale, donc ça a duré une vingtaine d'années. C'est un genre, un rythme très relevé, très sautillant, très dansant, très souvent joué soit au piano, soit au banjo, mais ce n'est pas exclusif, mais c'est vraiment pour ces instruments que beaucoup d'œuvres ont été écrites. Et Scott Joplin a écrit de très nombreux ragtime. Parmi eux, un des plus célèbres en tout cas, est probablement The Entertainer, qui est un ragtime qui a été utilisé notamment dans le film L'Arnaque, sorti en 1973. C'est un film qui a déjà un demi-siècle d'existence et je vous propose de l'écouter tout de suite. Thank you. C'était Scott Joplin et plus particulièrement son ragtime The Entertainer que nous venons d'entendre à l'antenne d'IDFM. Comment faire un programme sur les tubes de la musique classique sans évoquer Vivaldi et ses quatre saisons? Impossible! Vivaldi est un compositeur italien de l'époque baroque. Je reviens à cette période, donc à laquelle appartient Lully, Bach et aussi Handel. Mais Vivaldi, lui, était né en 1678 et il est connu pour avoir écrit donc une œuvre qui s'appelle Les Quatre Saisons, qui sont en fait quatre concertos pour violon. Le concerto, c'est un genre dans lequel il y a un instrument qui est mis en avant et il va être accompagné par un orchestre. Les quatre saisons de Vivaldi, ce sont en fait quatre concertos pour violon. Donc en fait, chacune des saisons possède et est composée de trois mouvements, comme ça doit être le cas dans un concerto. Un rapide, un lent et un rapide. Vous l'aurez probablement reconnu, c'était un extrait du début du concerto Le Printemps tiré de l'œuvre plus globale Les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi, compositeur donc de l'époque baroque, compositeur italien. On se retrouve le 4 avril pour un nouveau programme consacré aux fondamentaux de la musique. Vous pouvez réécouter cette émission et d'autres émissions de la grille sur www.idfm98.fr, nous écouter partout dans le monde avec l'application IDFM Radio, et enfin, vous pouvez nous suivre et nous contacter via les réseaux Instagram et Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.
De France.
Écoutez IDFM
sur 98 FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.